Vous écoutez France Musique.
Merci beaucoup Thierry Beauvert, passez un bon dimanche soir et on se retrouve la semaine prochaine.
Oui, notre parti, parti d'Henri. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Notre parti, parti d'Henri. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti.
Nous avons pris le parti de prendre la tête d'un parti.
Moi j'aime pas les types de mon âge qui disent j'aime les jeunes.
La difficulté de devenir soi-même prend un sens concret et même parfois très violent.
Mais enfin, c'est impossible. Le tennis, c'est pas ça.
Bonsoir et bienvenue dans Le Parti d'Anjou, bienvenue sur France Musique. C'est l'heure de la partie de tennis sans arbitre et sans ligne blanche au sol. Aucun set à remporter, ni trophée en haut du podium, bien que ces images doivent résonner avec la trajectoire de notre invité pianiste. Dans le Nouveau Testament, il est celui des rois mages qui offrent l'encens à Jésus le nouveau-né. Il a donc quelque part la responsabilité de l'immatériel. C'est un petit peu comme dans la vie d'un pianiste. Il a 26 ans, bienvenue à Gaspard Dehaene et bienvenue à vous.
Monsieur Toto, garnement, va, asseyez-vous.
Voilà, monsieur.
Mais non, ne tournez pas le dos à l'instrument. Asseyez-vous face au piano.
Oui, l'instrument, oui. Attends, je vais essayer de jouer avec mes coudes.
Monsieur Toto, il sera bien temps pour vous plus tard dans l'existence de jouer des coudes. Ainsi, moi, lorsque j'eus obtenu ma première médaille de solfège...
Mais tu me l'as déjà raconté, dis, tu nous diras ça une autre fois, toi. Oh, dis donc, monsieur Anastase, tu me fais du mal aux doigts avec ta règle.
Et vous me faites mal aux oreilles avec vos fausses notes. Reprenons.
Je vais le dire à ma mère que tu m'as battu les doigts, grand vilain.
Ah, mademoiselle Marie, j'espère que vous réussissez mieux vos arpèges que ce petit espiègle ne réussit ses asperges. C'est le contraire que je veux dire. J'arpège que vous réussissez mieux vos espiègles que cette petite asperge.
Dis donc, Ébiturin, tu bafouilles.
Insolent.
Oh, dis donc, je n'ai un doigt de coller que je ne peux plus décoller.
C'est la confiture, parbleu.
Voyez, petit malpropre, vous en avez enduit la touche et farci le clavier.
Oui, eh ben, t'en fais pas, je m'en vais le nicher le clavier, tiens. Dis, le clavier, ça fait froid à la langue.
Bonsoir Gaspard Dehaene.
Bonsoir Edouard.
Comment allez-vous ?
Très bien, merci. Et vous ?
Eh bien très bien. Est-ce que vous aimez le dimanche soir ?
Pas tous les dimanches soirs, mais bon, celui-là a une saveur particulière.
Qu'est-ce qu'on attend de vous dans le parti d'en jouer, selon vous ?
D'être moi-même, certainement, autant que possible. Et voilà, peut-être de dresser un portrait de... Quel genre de musicien, quel genre de personne je suis ou j'aimerais être. Donc, on peut commencer.
Alors, bienvenue à vous. C'est vrai qu'on écoutait ce magnifique Toto qui essaye d'apprendre le piano et puis qui oublie de se laver les doigts avant de jouer du piano parce qu'il les a trempés dans la confiture. C'est quoi votre rapport à l'enseignement, Gaspard Dehaene ? Est-ce que vous avez vécu des expériences malheureuses ?
À vrai dire, non. Je pense même avoir été plutôt... Moi, avoir fait vivre de mauvaises expériences à mes premiers professeurs, parce que je faisais pas preuve de beaucoup de bonne foi, justement à cause d'une autre passion qui ne laissait pas du tout la place à la musique, donc le tennis, pour ceux qui auraient peut-être compris ou qui me connaissent. Et non, je sais que j'allais aux toilettes pendant extrêmement longtemps pendant le cours pour gagner du temps. J'écoutais rien. J'avais même remarqué que je jouais, on me disait deux, trois conseils. Et j'avais remarqué que la plupart du temps, donc j'écoutais rien. et que je refaisais exactement pareil, et j'avais l'impression que 9 fois sur 10, bah, ça marchait. Enfin, le professeur était quand même content. Alors, est-ce que c'était par lassitude ou est-ce que inconsciemment il y avait quelque chose qui s'était débloqué en moi? Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, heureusement, je me suis un petit peu amélioré dans mon zèle.
Alors, bienvenue à vous, Gaspard Dehaene. Merci d'être avec nous dans Le Parti d'en jouer ce dimanche soir sur France Musique, qu'on ouvre tout de suite avec votre marraine décédée en 1993, Catherine Collard, merveilleuse pianiste. C'est le tout début de la fantaisie opus 17 de Schumann sous les doigts de Catherine Collard, merveilleuse pianiste. Pour ouvrir votre partie d'en jouer, Gaspard Dehaene, la déclaration de Robert Schumann à Clara, la fougue amoureuse de ce début, et puis surtout votre marraine décédée en 1993 à l'âge de 46 ans, élève de Yvonne Lefébure et de Germaine Mounier. Vous êtes né donc en 1987, Gaspard.
Tout à fait, oui.
Vous avez pris des cours avec...
Hélas, non, parce que voilà, elle est décédée quand j'avais 6 ans et je suis d'autant plus triste que j'ai jamais finalement pu vivre un moment de partage autour de la musique avec elle. Voilà, ce qui me reste d'elle, c'est beaucoup d'enregistrements et Dieu merci. Enfin, quelque part, je lui suis très reconnaissant pour la musique et pour moi-même et qu'elle ait laissé autant de témoignages puisque. Elle avait une mauvaise santé. Vers la fin de sa vie, elle a voulu impérativement enregistrer le plus possible. Et donc voilà, je sais aussi, grâce à ma mère qui était sa meilleure amie et aussi une partenaire, parce qu'elles ont fait beaucoup de piano ensemble, que c'était quelqu'un d'extrêmement passionné. Et je pense que la musique de Schumann le reflète à merveille, puisque voilà, ce pourquoi j'ai choisi cet extrait aussi, c'est parce que en termes purement d'auditeurs me concernant, je trouve qu'il y a une compatibilité idéale là entre une interprète et un compositeur, et on a l'impression que voilà, qu'il y a eu une rencontre et que voilà, enfin je trouve que c'est complètement authentique et voilà, d'une à la fois sobre et en même temps extrêmement profond, sans artifice, et que j'ai pas l'impression que Schumann écrase Catherine Collard ni que Catherine Collard n'écrase Schumann. Donc voilà, je trouve que l'équilibre est parfait et c'est ça qui me plaît énormément dans cet enregistrement.
Alors on parlera de votre maman Anne Kefelek un petit peu plus tard, mais vous parliez de compatibilité entre un compositeur et un interprète. Alors avant de revenir sur une forme de compatibilité dans l'expression avec Cortot, une forme d'incompatibilité, et vous l'évoquiez, entre le tennis et la musique.
Je voudrais donc souhaiter que, partageant mon sentiment, les interprètes de ce chef-d'œuvre du romantisme, dans le premier mouvement, les révoltes, les supplications d'une lutte tragique contre un destin sans espoir, à suggérer dans le scherzo les jeux menaçants des forces mystérieuses qui s'agitent confusément dans les ténèbres, à traduire la sublime gradation de cette marche funèbre dont les accents semblent contenir les échos de toutes les douleurs humaines et à évoquer, dans l'aigre frissonnement de l'hallucinant final, le tourbillonnement glacé du vent de la mort et du vent sur les tombes.
Cette voix, c'est celle d'Alfred Cortot. Dans votre partie d'Anjoué, Gaspard Dehaene, vous êtes pianiste, vous avez 26 ans. Et alors, deux petits éléments sonores pour évoquer votre carrière, parce que je crois que c'est pas exagéré de dire ça, de tennisman jusqu'à quel âge d'ailleurs, 16 ans,
ouais,
15-16 ans.
15-16 ans, oui, c'est ça. Ouais. C'est vrai que j'ai eu un prize money, donc... d'environ 700 euros, donc on peut parler de carrière, même si ça fait même pas un SMIC, mais à l'époque, pour moi, c'était, voilà, je me souviens d'avoir gagné un tournoi, d'avoir gagné la modique somme de 120 euros, et j'étais venu en transport en commun par moi-même, donc j'étais fier de moi.
Et vous étiez classé combien ?
Alors j'ai été, mon pic, c'est d'avoir été pendant 2 ans classé 5-6.
5-6, bah c'est pas mal.
Oui, bon, moi, en toute objectivité, sans modestie, enfin sans excès de modestie, je trouve que c'est ni mal ni bien, compte tenu du nombre d'heures que j'ai passées sur un cours, voilà, je trouve que c'est presque un juste retour des choses.
Quel était votre point faible en tennis et votre point fort ?
Alors.
Parce qu'après, on parlera aussi de symétrie, parce qu'une des raisons pour lesquelles vous avez arrêté le tennis, c'est précisément parce que... c'est toujours un peu un mystère quand même, mais c'est vrai que ce n'est pas un sport symétrique. Oui. C'est un sport déséquilibré qui grossit le bras avec lequel on joue, l'épaule.
Oui. Alors, mon point faible, je pense qu'en fait, je n'étais pas assez, ce qu'on appelle dans le milieu du sport, un tueur. Donc, c'est-à-dire, je pense que j'avais une quantité d'émotions en moi qui faisait que, par exemple, j'avais la célèbre peur de gagner. Donc j'ai perdu un nombre de matchs en 3-7 que j'aurais dû gagner, ce qui rendait fou de rage mon père, puisque on faisait trois quarts d'heure de bagnole, comme il disait, aller puis retour.
Tout le ça dimanche pour, matin à 8h.
Peu importe, vraiment, alors là, il y en a eu. C'est vrai qu'on a de quoi écrire un livre sur les aventures de Gaspard et Luc au tennis. Voilà, donc je pense que j'avais surtout des faiblesses sur le plan mental. Hein. Et que je pense que j'avais une certaine facilité physique pour ce sport, une certaine aisance. Et bon, pour arrêter de m'auto-flageller, je vais dire quel est mon point fort. C'est le décalage du coup droit décroisé sur le revers de l'adversaire quand celui-ci est droitier.
Quand vous dites ça, décalage, pourquoi ça décalage mal. Le coup droit
Bah, c'est quand d'habitude, le point faible, hein, généralement, c'est le revers. Donc, on essaye de jouer sur le revers de l'adversaire. Et donc, si la balle qu'il m'envoie n'est pas assez sur mon revers, je peux donc me décaler et ainsi frapper un gros coup droit sur son revers. Et ça, je pense que j'en ai fait peut-être un petit millier dans ma vie. Et c'est une sensation qui me manque énormément.
Alors, pour en parler à l'infini, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de corrélations entre le tennis. Vous parliez de la peur de gagner, on peut parler des effets de la balle, d'une forme de stratégie aussi, d'école même, espagnole, américaine, française, ouais. Enfin je veux dire d'élégance. Voilà, il y a plein de métaphores possibles. Mais alors, la voix d'Alfred Cortot, c'est vous qui l'avez choisi, Gaspard Dehaene, c'est pour évoquer cette formidable magie de l'imaginaire qui peut agir parfois comme un levier pour tout simplement débloquer le jeu.
Oui, tout à fait. Alors, en fait, ce qui m'a frappé par plusieurs expériences pédagogiques et aussi personnelles, c'est que voilà, à force de travailler sur une pièce, on peut se crisper, on essaye de... Bon, bien sûr, sur l'aspect technique, mais aussi, voilà, on essaye d'étudier la structure, où sont les tensions harmoniques, où est-ce qu'on peut détendre un peu. Voilà, enfin, des considérations objectives. Et tout à coup, par le simple fait d'une image poétique ou de quelque chose qui a lieu, enfin, qui s'apparente à l'imaginaire et à quelque chose d'entièrement personnel, tout se met en place. Alors, c'est un peu un remède miracle et qui malheureusement ne marche pas à chaque fois. Mais j'ai déjà fait plusieurs fois l'expérience, par exemple, d'enregistrer un programme que je considère qu'il est, quand je l'écoute après, qu'il est réalisé, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément interprété. Et je ne me reconnais pas vraiment en tant que personne. Et d'avoir écouté un acte d'opéra ou d'avoir, je sais pas, simplement lu la partition ou n'importe où, lu un livre, quelque chose qui m'emmène dans un univers poétique. Et tout à coup, voilà, j'ai l'envie de jouer. Et il y a des choses qui se débloquent par elles-mêmes, tant physiquement que musicalement. Tout à coup, j'ai envie d'entendre ça que je n'avais jamais entendu. Et je le découvre moi-même en même temps que je le fais découvrir. Et voilà, cette expérience donc, d'avoir enregistré une sorte d'avant et d'après voilà, était un peu une sorte de révélation. Et pour moi, c'est vrai que quand j'entends quelqu'un comme Cortot parler, bah, ça me transporte et j'ai plus envie de parler de staccato, de rythme instable ou je ne sais quoi. Enfin, et je trouve que voilà, c'est très difficile avec un instrument comme le piano qui demande beaucoup de réflexion objective et concrète, bah de s'échapper finalement de toutes ces contraintes et de revenir au sens premier qui est voilà, l'inspiration musicale et qu'est-ce qu'on a envie de dire dans cette musique-là.
Thank you.
magnifique Alfred Cortot dans la quatrième balade opus 52 de Chopin. Avec vous, Gaspard Dehaene, dans votre partie d'Enjouée, vous aviez d'ailleurs, je crois, fait un mémoire au CNSM sur Cortot et ses préludes,
oui.
C'est ça ?
Oui, oui, voilà, sur les préludes. L'interprétation, le titre était l'interprétation des préludes de Chopin par Alfred Cortot, donc j'avais comparé, il y a 4 versions. Et j'en avais choisi 4 que j'avais analysé en profondeur sur le plan interprétatif. Et c'était une expérience très, très enrichissante, justement, parce que...
Qu'est-ce qu'elle permet de comprendre ?
Justement, ce que je disais un peu avant, donc le fait que le travail de métronome, etc., que chaque interprète doit faire à un moment quand il apprend un morceau, travail un petit peu fastidieux, mais dont on ne peut faire l'économie, il a ses limites. C'est qu'il y a un moment où, moi, ce que j'adore quand j'écoute Cortot, c'est qu'on aurait presque envie de lui dire « Écoute, va faire un peu de métronome et enlève la pédale. » Mais d'un autre côté, on perdrait certainement l'éloquence dont il fait preuve et son sens du discours qui moi me bouleverse, et là je lui pardonne toutes les fausses notes. Et on en a déjà entendu un petit paquet sur cet extrait musical. Mais ça n'a vraiment aucune importance. Donc là et c'est vrai que donc je lisais puisqu'il a également, Cortot fait des partitions annotées avec d'immenses phrases proustiennes pour parler de la poétique d'un passage et de l'importance de traduire ce caractère. Bon, peu importe, je vais pas le paraphraser parce qu'on est dimanche soir.
Si, ce serait pourtant le... on l'a un petit peu entendu, en tout cas, dans l'explication de la marche funèbre.
Ça devrait suffire.
Mais c'est pour dire quand même que c'est un pianiste, on va dire, d'écriture, et c'est ça qui est peut-être intéressant, un pianiste à l'intensité, à la densité de la narration absolument inouïe. Si elle s'appuie, cette narration, sur une vraie narration, pourquoi pas, et c'est assez 19e-iste de le penser, mais aujourd'hui, on a un peu tendance à dire, oui, musique pure, musique absolue. Mais si c'est sous-tendu par des images, pour arriver à cette... Pour reprendre d'ailleurs ses propres termes, détente expressive de la phrase absolument merveilleuse de Cortot, tout transposé sur un plan de rêverie. Ça fait référence peut-être aussi à une anecdote avec Bruno Rigouteau, je crois, Gaspard Dehaene. Tout ça pour dire que la force de l'image, qu'elle soit sensitive, odorante, donc olfactive, visuelle, enfin n'importe quelle image qui permet de débloquer et d'abolir la logique des marteaux et de la mécanique sous-jacente, du piano est bonne. Qu'est-ce que c'est que cette anecdote avec Bruno Rigouteau ?
Alors, c'était, c'était à l'Académie de Nice en été, et je jouais un prélude de Debussy, La terrasse des audiences du clair de lune, qui est un prélude lent et méditatif, et extrêmement poétique, très nocturne d'ailleurs. Et il trouvait que peut-être je manquais un peu de. Je sais pas si c'était insipide, bon, c'est peut-être un peu cruel, mais en tout cas, il avait jugé opportun à un moment de me vaporiser un pchit de parfum, ce qui m'avait un petit peu désarçonné, mais j'avais ensuite compris le sens de ce qu'il voulait. C'est qu'il voulait que je parfume la musique. Je ne sais pas comment mieux le dire. Et en même temps, on ne pourrait pas dire à un élève, écoute, est-ce que tu peux me parfumer un peu plus ta main gauche ? Et pourtant, si on le dit, peut-être que l'élève, on va ouvrir une petite porte dans son intérieur, et que je ne sais pas s'il arrivera à un résultat convaincant, mais il va changer quelque chose. Et c'est aussi ça le travail de l'interprète, c'est essayer des choses. Et puis quand on a des motivations poétiques, finalement, je pense qu'à terme, on arrivera toujours à un résultat convaincant, puisque... Voilà. Pour revenir un tout petit instant sur Cortot, je sais qu'il disait aussi que l'objectivité, il disait que c'était un idéal imparfait. Et ça me plaît énormément, puisque finalement, il disait donc, pour argumenter là-dessus, qu'il fallait impérativement avoir une certaine forme de familiarité avec les grands chefs-d'œuvre, même si on a tendance, quand on commence, par exemple, la sonate opus 111, la dernière de Beethoven, où il y a des monuments de la musique dont on a peur finalement de mettre les doigts dedans, et on les respecte tellement qu'on n'a pas envie de les écorcher, et on a raison. Mais si à un moment on n'ose pas entamer le dialogue avec cette œuvre et avec le compositeur, on n'arrivera pas à un résultat convaincant. Et donc, lui, il disait qu'il fallait carrément... Donc, il adopte ce mot de familiarité pour développer quelque chose de vivant et de personnel. Et moi, je suis persuadé que quand même la plupart des compositeurs composent en voulant que l'interprète ajoute... Enfin, en tout cas, que le prisme de l'interprète soit un ajout et pas simplement une reproduction... fidèle, puisque ça ne veut rien dire finalement, puisque la musique c'est une partition et elle a besoin d'un interprète vivant pour exister. C'est pas comme un tableau ou une sculpture ou même un livre. Donc quelque part on peut se ficher entre guillemets du fait que le peintre, l'écrivain ou le sculpteur, qu'il soit mort ou pas, ça nous empêche pas de profiter de l'œuvre puisqu'on l'a devant les yeux, mais c'est un produit fini, tandis que la musique n'est pas un produit fini, elle a besoin de l'interprète.
Et il y a aussi la photographie, ça tombe bien. Écoutez ici Robert Doisneau.
Longtemps j'ai prétendu qu'il fallait dire au contraire bouger, parce que comme tout est mouvement, je pensais que ça était donner une vue plus exacte de l'époque que nous vivons et de nos contemporains que de leur dire bouger. Puis je m'aperçois avec les années que l'immobilité est un luxe extraordinaire. C'est un luxe gratuit, pas complètement gratuit, je veux dire, on paye avec son temps, on paye avec des bouts de sa vie, mais attendre, pour moi, ça me fait comme un être très très singulier au milieu de la foule. Et quand je suis immobile, mais vraiment immobile, vous n'avez pas idée, 2 heures à la même place, les gens viennent vers moi. Je suis un peu comme le platane qui attire les fox terriers qui viennent faire pipi au pied du platane. Les gens viennent et d'abord ils m'interrogent en me disant « Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qui se prépare? Qu'attendez-vous ?» Je n'en sais rien. Je crois que la qualité d'un photographe doit être l'espoir du miracle.
Thank you.
Le premier mouvement de l'opus 131 de Beethoven par le quatuor Albanberg, magnifique. Attente et espoir du miracle, en résonance avec ce que disait Robert Doisneau pour votre partie d'en jouer, Gaspard Dehaene, c'est votre choix musical. Avec ces petits extraits justement de Robert Doisneau qui disait pour le photographe, mais en fait c'est quelque chose qui s'appliquerait aussi bien et même je trouve peut-être mieux au pianiste ou au musicien de manière générale, c'est de créer l'espoir du miracle. Et je trouve que c'est d'autant plus intéressant que ce que dit Doisneau aussi sur l'immobilité me fait penser à la position du pianiste qui est assis dans une position immobile au piano avant de jouer et qui crée en quelque sorte cette attraction, ce fait qu'on a envie d'aller vers lui. Et c'est ce que dit Doisneau avec cette image du mec qui attend sur un banc seul. C'est-à-dire que les gens viennent à vous et qu'une fois que vous vous mettez à jouer... Ben finalement, c'est ça qu'il faut absolument préserver comme mystère. C'est que les gens, par leur écoute, aient envie de venir à vous.
Oui, oui, oui. Alors après, est-ce que ça doit être le fruit d'un calcul ou pas ? Enfin, il y a des... Bon, l'anglang bouge énormément. Partout, la tête, le corps, etc. Je sais pas trop. Est-ce que ça se ressent dans sa musique ? Est-ce que s'il bougeait pas, il jouerait différemment ? Bon, moi, je suis pas archi fan. Je trouve que justement... Il bouge tellement qu'il doit perdre une énergie. Et Horowitz, lui, il ne bougeait absolument pas. Il disait, voilà, ce que vous ne voyez pas sur mon corps, cette énergie que je ne perds pas à faire des grimaces, etc., elle va dans le piano, elle va dans la musique. Après, bon, c'est très subjectif parce que... C'est vrai que, par exemple, moi, je trouve que cette immobilité physique... dont vous parlez, elle est magnifique concernant Horowitz. Il y a aussi des gens qui sont beaux à voir jouer physiquement. Par exemple, c'est une violoniste, mais Janine Janssen, en plus d'être très belle déjà, même quand elle ne joue pas, elle a une gestuelle qui la rend encore plus fascinante et qui s'accorde parfaitement avec sa musique. Un autre, par exemple, qui a fait un travail sur lui... parce que quand il s'était vu jouer, il trouvait que c'était pas possible. C'était Alfred Brendel.
Bien sûr, bah oui.
Et il paraît qu'il jouait, qu'il s'est entraîné à jouer avec un miroir. Voilà. Et bon, chacun. Alors moi, je sais pas trop. J'en sais rien.
Alors, mais ce quatuor, le côté dernière œuvre, qui permet aussi de comprendre la trajectoire d'un compositeur, ça résonne aussi avec le fait que vous avez suivi un cursus, je crois, au CNR de Paris, anciennement CNR, avec le quatuor Isaïe. Mm-hmm. Et puis c'est vrai qu'on parlait avec Gaspard Dehaene de cette idée d'abolir un petit peu la mécanique sous-jacente. Finalement, ça revient au même. Ce que vous disiez pour l'énergie d'Horowitz, on pourrait dire que pour le piano, c'est pareil. Il faut faire oublier la logique des marteaux et que des octaves peuvent être liées. Les gâteaux, on peut créer des illusions sonores et que ça, le quatuor vous l'a permis en tout cas.
Oui, voilà. Alors, c'est vrai que c'était une expérience pédagogique extrêmement forte pour moi que d'avoir ces cours avec ces très grands musiciens, même si je n'ai pas eu tant de cours que ça. Parce que j'ai fait ce cursus avec un trio seulement pendant un an. Mais je me souviens d'avoir entendu plusieurs fois cette phrase... qui peut être un peu énervante, mais qui titille finalement et qui stimule le côté challenge qu'on a tous quand on est élève et qu'un prof nous demande « est-ce que tu es capable de faire ça ?» Et donc cette phrase, c'était « Bon, je ne suis pas pianiste, donc je ne sais pas si c'est possible, mais est-ce que tu peux essayer de, pour reprendre votre exemple, de faire ces octaves à la main gauche legato, de faire en sorte que les deux voix, ce qui est matériellement impossible, entre guillemets, parce que l'octave est un intervalle trop grand pour être joué legato avec des substitutions. Mais voilà, avec l'écoute, la force de l'élan musical, je sais pas, un savant dosage de la pédale, mais tout ça, encore une fois, fait écho à ce dont on parlait avant. C'est-à-dire que voilà, la musique, elle est sur la partition, elle est un langage, et on se fiche des problèmes de l'interprète. L'auditeur est assez cruel pour ça, et il a raison en même temps. Voilà, des indispositions que chaque instrument impose, malheureusement, et c'est pour ça qu'on doit travailler beaucoup d'heures chaque jour. Voilà, ça c'est vrai que c'était particulièrement marquant, parce qu'un prof de piano, peut-être n'aurait pas eu autant d'exigences, puisque finalement, voilà, cet instrumentiste à cordes me demande quelque chose qu'il est, lui, capable de réaliser avec son instrument, beaucoup plus facilement que moi avec mon piano. Mais voilà, il m'invite à essayer et au final, je ne sais pas si on arrive au résultat espéré, mais voilà, c'est toujours mieux et je sais que le mieux est l'ennemi du bien, mais parfois quand même.
Un extrait du diabolique Scarbo du Gaspard de la Nuit de Maurice Ravel, joué par votre maman Anne Kefelec, Gaspard de Anne. Gaspard de la Nuit, il est 21h30. Voilà. Bon, il y a un rapport.
Oh, dois-je vraiment répondre?
C'est si évident que ça alors?
J'en sais rien, mais c'est sûr que dans l'inconscient maternel et musical, ça a dû... Oui, ça a dû avoir un certain rapport.
Vous êtes né à quelle heure, Gaspard?
Oh là, je suis né à 4h du matin.
Gaspard du matin, plutôt, alors.
Oh, vous... C'est encore la nuit, non, à 4h du matin.
Ouais, je sais pas, ça dépend ce qu'on fait, quoi. Gaspard, vous êtes plutôt de la nuit ou du jour, vous?
Je sais pas trop encore. J'arrive pas trop à savoir, mais bon, ça dépend des périodes. On va dire que, pour faire pas très original, quand je suis en vacances, je suis peut-être plutôt de la nuit. Et quand je dois travailler, bah, j'essaie de me lever tôt. Mais c'est difficile.
Parfois. Alors on va essayer un petit peu d'éviter aussi les lieux communs des questions journalistiques concernant la filiation de Gaspard de Anne avec votre maman Anne Kefelec. Mais peut-être pour rebondir sur un aspect qui concerne l'interprétation, puisqu'on parle de ça ici dans le Parti d'en jouer, c'est la question de faire confiance à son instinct ou faire confiance à ce qui peut vous plaire ou vous déplaire dans l'interprétation. Pas forcément de votre maman, mais du coup, dans ce dosage entre une forme de raison résonante, consciente, de direction, et puis un côté beaucoup plus animal, mais qui du coup vous confronte à une subjectivité dont on n'a pas forcément l'habitude de composer avec cette subjectivité, même si c'est votre travail quotidien. Donc ce dosage entre instinct et, on va dire, des choses qui feraient école ou des grandes personnalités, des grandes subjectivités comme votre maman.
Oui, alors moi j'ai l'impression que quand on commence une œuvre, on a d'abord, si on a le luxe de pouvoir la choisir et qu'on est donc motivé parce qu'on aime cette œuvre et qu'on a envie de la jouer, je pense que l'instinct au début fait un travail énorme parce qu'on est très enthousiaste de découvrir cette œuvre par soi-même, même si il y a encore énormément de travail à faire, mais de la sentir sous ses doigts. Et après vient une longue phase de travail, de décortiquage, de ces choses fastidieuses. Et voilà, le risque après, c'est comment revenir à l'instinct le premier, c'est le plus pur, celui qui interpelle l'auditeur et aussi qui nous donne du plaisir à nous en tant qu'interprète. Et ça, c'est vrai que voilà, bah, je pense que par exemple, l'écoute d'un opéra, enfin des influences extérieures qui, après s'être plongé dans la partition, il faut en sortir. Et pour y revenir avec fraîcheur, voilà, comme si on reste dans une salle trop longtemps parce qu'on est enfermé, on en sort et on va voir ailleurs et on y re-rentre et on la voit d'un angle, sous un angle nouveau et frais. Et ça, je trouve que voilà, cette notion de fraîcheur est finalement la chose la plus difficile qui soit dans le travail d'un interprète.
Alors c'est intéressant ce que vous dites, hein, Gaspard Dehaene, parce que cette notion de fraîcheur, c'est précisément la question que je voulais vous poser juste après, qui a un lien avec la musique qu'on va entendre tout de suite. Magnifique, celle de Jean-Sébastien Bach, revisité par Samuel Fenberg, un grand virtuose russe du piano, mort en 1962. Mais fraîcheur par rapport au sujet Arkady Volodos, on va en parler juste après, mais qui disait précisément, et je le cite, « Comment voulez-vous parvenir à quelque chose en donnant plus d'une centaine de prestations par an, en subissant ces sons qui retentissent dans nos grandes villes ? Quelles sont vos perspectives d'ascension spirituelle si vous vous contentez d'effectuer des trajets entre hôtels, salles de concert, aéroports et gares ?» On en parle juste après. Samuel Fenberg qui revisite une sonate en trio de Jean-Sébastien Bach, BWV 529, jouée ici par Arkady Volodos, que vous avez entendu récemment en concert, Gaspard Dehaene, et qui parlait dans cette citation des perspectives d'ascension spirituelle rapportées aux conditions matérielles de la vie d'un musicien, c'est-à-dire hôtel, salle de concert, aéroport et gare.
C'est très Nietzsche, hein, cette citation. J'ai malheureusement pas l'expérience de Volodos, mais c'est vrai que moi, ce qui fait que je l'admire énormément, outre ses qualités purement pianistiques, c'est sa pureté. Et dans cet enregistrement, ce qui me fascine et que j'adore, c'est qu'il y a à la fois une lecture verticale parfaite, puisque chaque harmonie a sa place d'un point de vue agogique, et en même temps, chaque ligne est totalement libre et chantée et dessinée comme, voilà, comme si c'était une sonate en trio. Et aucune, voilà, aucune interférence négative d'une voix sur une autre. Et c'est ça, c'est une preuve de technique pianistique éblouissante.
Alors, c'est vrai, hein, pour l'avoir entendu en concert, et ça peut être un lien aussi avec ce qu'on va entendre. C'est-à-dire que là, on passe du domaine de la fugue. De la fugue, mais aussi de la rencontre, hein, parce que les voix fuient, mais elles se rencontrent. C'est pour mieux se rencontrer quelque part. L'indépendance des doigts, c'est quand même quelque chose qui caractérise aussi assez bien Arkady Volodos, qui a un peu du Horowitz quand même aussi dans la boule de cristal de la paume de la main. C'est quoi vos doigts? Comment vous les envisagez? Est-ce que vous les envisagez avec un élément dont on ne parle pas souvent, je trouve, en piano, c'est la paume? Parce que parler de sonorité, d'accord, mais produire un son en piano, c'est facile.
Oui, c'est vrai.
Produire une sonorité, c'est autre chose.
Oui. Bah, le piano a cet inconvénient et en même temps cet avantage d'avoir une action verticale, donc, qui est absolument qui est facile, effectivement. On peut, comme on disait au début de l'émission, on peut jouer avec ses coudes ou avec son nez ou avec ce qu'on veut. Mais abolir complètement cet aspect vertical du piano, bah c'est voilà, c'est le challenge de tout pianiste. Alors pour moi, mes doigts, bah je sais pas, ça doit être, ça dépend du répertoire, mais ça peut être tantôt des baguettes, quelque chose d'agressif, quelque chose d'incisif, ou au contraire quelque chose d'extrêmement tendre. Bon, c'est voilà, c'est le point de contact, la pulpe du doigt entre moi et mon instrument de musique. Donc, je sais pas. C'est vrai que c'est autant de personnes que, qu'en même temps, ça doit être une seule. Bon, on a deux mains, 10 doigts. Ah, j'avoue que c'est quoi mes doigts? Je pense que j'y réfléchis chaque jour. Ou comment je veux qu'ils... En tout cas, voilà, on les commande. Et c'est vrai que nos doigts, si on leur dit de faire ça, bah, ils le font. Et donc, quelque part, je pense qu'il faut les oublier, en fait. Il faut les oublier. Donc, je ne sais pas ce que sont mes doigts.
Gunula Janowitz, Agathe dans le Freischütz de Karl Maria von Weber avec Carlos Kleiber, pour évoquer bien sûr cette idée toujours de recherche de la vocalité dans le piano, de sortir de cette logique digitale et pour refermer ce parti d'enjouer avec vous, Gaspard Dehaene. On va quand même vous entendre cette fois-ci C'était le 10 octobre sur France Musique dans une journée spéciale qui était consacrée à votre maman, mais dans des pages qui vous sont dédiées, des pages de Pierre Boulez, une page d'éphéméride. Et je trouve que le titre est assez énigmatique pour faire Miss Party d'en jouer.
Oui, alors peut-être... Moi, je trouve qu'il y a une forme de poétique. Et alors, j'espère que si jamais Boulez m'écoute, qu'il ne sautera pas au plafond, mais... Tant pis, j'aime sa pièce et pour des raisons qui me sont personnelles. Voilà, elle est extrêmement courte et en même temps elle est en trois parties distinctes qui explorent différentes facettes de comment faire sonner un piano. Là, tantôt la résonance, tantôt la concision, la précision et l'extrême rapidité. Et enfin, un peu de... Voilà, une autre forme de résonance mais dans la pédale cette fois. Voilà, je garde un souvenir, j'ai pu jouer cette pièce pour lui et je garde un souvenir extrêmement impressionnant. Parce que c'était extrêmement rapide, finalement. J'avais joué une fois, il m'a fait quatre commentaires, ensuite il me l'a dirigé, donc je lui ai rejoué sous sa direction, en quelque sorte. Et voilà, j'ai été frappé par son pragmatisme et exactement l'extrême précision de ce qu'il voulait, tout en même temps en découvrant une forme de rubato qu'il laissait à l'interprète, donc ce qui m'a fait énormément de bien, parce que ses indications sont tellement précises que je ne savais pas trop comment m'y prendre. Et j'ai eu la chance de jouer pour cet immense compositeur et personnalité musicale.
Un grand merci à vous, Gaspard Dehaene, et une belle route.
Merci beaucoup.
Un extrait d'une pièce de Pierre Boulez, une page d'éphéméride jouée par vous, Gaspard Dehaene, le 10 octobre sur France Musique, dans le cadre de la journée spéciale consacrée à votre maman Anne Kefelec. Un grand, grand merci à vous. On vous met bien sûr toutes les dates de concert sur le site du Parti d'en jouer, sur le site internet de France Musique. Éric Lancien a réalisé cette émission. Jean-René Bonissant m'a aidé à la préparer avec aujourd'hui la prise de son et au mixage Bruno Mourlan. Vous pouvez bien sûr podcaster cette émission, la réécouter tranquillement. Passez un bon dimanche soir à l'écoute de France Musique. Vous avez rendez-vous avec Jérémy Rousseau comme si vous y étiez. Et bonsoir Jérémy.